Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le premier, dans l'Ancien Testament, Exode 3, les versets 1 et 2. Exode 3, le verset 1 et 2. Nous poursuivons dans Matthieu 27, le verset 50 à 52. Matthieu 27, 50 à 52. Et nous terminons avec l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 22. Nous commençons avec Exode 3, les versets. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Matthieu 27, le verset 50 à 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépultures s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Nous terminons avec Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole et sa sainte influence dans nos cœurs. Amen.
Vous avez compris, si vous étiez là il y a deux semaines, que nous reprendrons le thème abordé à ce moment-là. Et nous essaierons d'aller un petit peu plus loin sur ce chemin, car je vous avais dit il y a deux semaines de cela que nous devions revenir pour approfondir. Un petit rappel quand même, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui étaient présents et pour renseigner ceux qui ne l'étaient pas. Il y a dans ce passage, que je recommande d'ailleurs à votre lecture, j'entends Exode le chapitre 3 et le chapitre 4, un certain nombre de signes qui sont donnés par Dieu à Moïse. Et quand nous étudions ces signes, nous apercevons qu'ils entretiennent un rapport étroit. Et précis avec l'interprétation du salut chrétien. C'est donc un exercice à la fois périlleux, parce que saint, un exercice périlleux, parce qu'aussi complexe, disons-le, mais un exercice ô combien important, qu'il nous revient en partie ce matin, d'essayer d'élucider. Ces signes, quels étaient-ils ? Eh bien, nous les dénombrons, et j'imagine que vous devinez le nombre de signes. 7. Il y avait d'abord les sandales de Moïse, dont Dieu lui demandait de les ôter. Et nous avions donné un certain nombre de sens à cela. Il y avait le signe de l'eau du Nil. Transformée en sang. Et nous avions aussi donné sens à tout cela. Pour ceux qui n'auraient pu être là, je vous invite à vous connecter sur le site internet de l'église de Damary-les-Lys et vous retrouverez. Connectez sur le site internet de l'église de Damary-les-Lys et vous retrouverez tout ceci. Le signe du buisson d'épines, en effet, dans cet épisode un peu. Le signe du buisson d'épines, en effet, dans cet épisode un peu mystérieux, étrange, nous voyons une manifestation de Dieu, une théophanie dans un buisson qui ne se consume pas. Ce signe aussi est important si nous voulons comprendre l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce signe-là dès maintenant. Ce buisson, nous avions dit qu'il n'était pas un petit buisson tel que nous pouvions l'imaginer dans le sud de la France ou ailleurs, mais au contraire, un arbre plutôt majestueux, avec des épines qui pouvaient aller jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres, une hauteur d'arbre qui pouvait aller jusqu'à 4 mètres. Et nous avions dit qu'il était curieux que le Seigneur qui se manifeste dans cet arbre, d'ailleurs c'est un Seigneur un peu particulier puisqu'il se fait appeler l'envoyé de Dieu, et nous verrons que cela a quand même une incidence dans l'interprétation du texte. Curieux que le Seigneur se manifeste, s'incarne dans ce type d'arbre, car il s'agit d'un roncier. Et après tout, si nous devions nous incarner dans un arbre, probablement que nous ne choisirions pas celui-là. Mais comme dans la Bible, et particulièrement ici, rien ne se fait au hasard, il nous faut donner sens à cette appropriation arboricole divine si particulière. Et le sens, c'est le suivant, et je préciserai par rapport à ce que j'avais apporté il y a 2 semaines de cela. Nous avons, vous le devinez, une anticipation sur ce que Jésus le Christ fera lorsque le temps de l'incarnation en l'humanité viendra. En effet, qu'est-ce que Jésus-Christ ? C'est Dieu qui se fait homme. Et voilà un point sur lequel tous les chrétiens sont d'accord. Que ce soit la famille catholique ou la famille protestante avec toutes ses ramifications évangéliques, notamment pour en arriver à l'adventisme, tout le monde est d'accord. Christ est 100% divin, Christ est 100% humain. C'est ce que nous appelons l'incarnation de Jésus le Christ. Eh bien, cette incarnation est déjà, au moment de ce buisson, indiquée, car dans la symbolique biblique, l'arbre est le symbole de l'homme. L'arbre est le symbole de l'homme. Nous avons le fameux psaume 1. Nous avons dans le jardin d'Éden, dès les premières pages de la Bible, 2 arbres qui symbolisent 2 hommes, celui de la connaissance du bien et du mal, celui de la vie. L'un est autonome, l'autre est connecté à Dieu, c'est pour cela qu'il est appelé l'arbre de la vie, l'homme de la vie. Et nous pourrions multiplier les exemples qui dans la Bible démontrent que l'arbre est toujours le symbole de l'homme. Et donc ici, que fait Dieu quand il se manifeste dans un arbre ? Il vient nous dire « je viens assumer l'humanité ». Mais c'est une humanité particulière, roncière, mauvaise, pécheresse. Et nous entrons dans le sujet dont Ellen White dira qu'il est le plus important de tous dans la parole, l'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ n'est pas une humanité immaculée, sainte au point qu'il n'aurait pu pécher. D'ailleurs, si le Christ ne pouvait pécher, à quoi bon les tentations de Satan ? Le Christ assume l'humanité, je vous renvoie à Romains 8, le verset 3, il est porteur d'une nature semblable à celle du péché, une sarx amartia en grec. Et nous avons aujourd'hui un exemple pathologique qui nous permet de comprendre quelle était cette nature si mystérieuse de ce Dieu qui devient Christ et assume à travers cette incarnation toutes les ronces, toutes les épines dont l'humanité est porteuse. Il convient de parler à titre d'exemple des malades du sida. Vous savez qu'il y a deux phases. Vous avez d'abord la séropositivité. Celui qui a contracté le virus est un porteur sain. Il va pouvoir vivre parfois de très longues années sans ne jamais déclarer quelques signes cliniques de la maladie. Et puis, à un moment donné, il va basculer dans le statut du malade, du sidéen, et il va manifester à ce moment-là les signes de la maladie qui, si elle n'est pas soignée, emportera celui-là. Le Christ est un porteur saint. Il a le virus du péché. C'est pour cela que quand il s'incarne ici, il s'incarne dans un roncier porteur d'épines, d'apparence modeste, c'est le moins que nous pouvons dire, repoussante même peut-être. Il a ce que nous avons tous, ce potentiel, cette nature. Mais ce qui est exceptionnel chez le Christ, et nous l'avons souvent dit, c'est qu'il ne basculera jamais de la séropositivité ontologique, pécheresse, à l'état de malade. Jamais il ne proposera, jamais il ne manifestera la moindre maladie, le moindre péché que ce soit, alors que potentiellement, il le peut. Il est muni de ce que Paul appellera la loi de péché et de mort qui nous conduit tous ici présents et depuis le premier des hommes jusqu'au dernier à un jour pratiquer le péché. Voilà ce buisson d'épines, ce qu'il nous dit. Ça, c'est, permettez-moi l'expression, l'explication christique, focalisée sur le Christ. Mais quelle est l'incidence de tout cela? Est-ce que nous ne sommes ici que pour décrire le Christ dans sa nature humaine même? À quoi bon? Le premier effet positif de l'analyse et l'acceptation de cette nature, eh bien, c'est le réconfort, me semble-t-il. Lorsque nous passons par des moments dans notre vie de chrétien, de croyant, où nous sommes bien obligés de constater que nous péchons et que parfois dans notre vie de chrétien, il n'y a pas d'état moral meilleur qu'il n'y en aurait à l'extérieur. À ce moment-là, il est peut-être bon d'imaginer que nous avons un ami, un frère qui plus est un Dieu qui s'est incarné, qui lui a vécu la même expérience que nous, qui s'est incarné, qui lui a vécu la même expérience que nous, mais a pu la dépasser, ne jamais se soumettre à ses contraintes, à ses effets malheureux que nous redoutons tous et déplorons souvent. Et le simple fait malheureux que nous redoutons tous et déplorons souvent. Et le simple fait que nous puissions nous associer à celui qui est capable des victoires dont nous ne sommes pas capables, nous apporte déjà du réconfort. C'est un peu l'histoire de ces deux malades sur deux lits d'hôpitaux. Qui soutient celui qui souffre? Celui qui apporte les bonbons et les chocolats à partir de 2h de l'après-midi quand les visites sont autorisées? Ou plutôt celui qui à côté souffre de la même peine et endure les mêmes douleurs que vous? C'est un peu cette logique, le fait de savoir que le Christ s'est incarné, qu'il a porté toutes nos épines, tous nos péchés, et qu'il a toujours triomphé de cela, nous apporte bien du courage là où nous nous faillons. Vous savez, il est important d'accepter le chemin du salut, cette autoroute qui nous invite un jour, et le plus tôt sera le mieux, à rencontrer Dieu pour vivre un temps de culte avec lui extraordinaire. Il est important de comprendre que l'un des premiers pas, c'est celui-là. Reconnaître, un, notre incapacité et la réalité de nos expériences chrétiennes est là pour le démontrer, quand bien même cela nous déplairait. Mais surtout de savoir qu'il en est un, Jésus, qui lui a réussi, Jésus, qui lui a réussi là où nous ne pouvons. L'acceptation de ce héros nous donne du coup la force d'emprunter avec plus de fiabilité, de moralité, ce chemin qui nous mène dans les cieux, le buisson d'épines. Je reviendrai maintenant sur, et c'est une aparté, sur les deux textes qui ont suivi la lecture du premier, car ils vont nous permettre de bien comprendre en quoi l'humanité du Christ et la victoire du Christ au sein même de son humanité nous donnent aujourd'hui la force d'espérer et le courage, malgré nos imperfections, de traverser le chemin, la vie du chrétien et d'aller jusqu'à l'objectif fixé. Avez-vous remarqué l'étrange parallèle qui existe quand on lit le Nouveau Testament entre d'un côté la croix du Christ et particulièrement la mort de Jésus-Christ et le voile dans le sanctuaire terrestre. En effet, les textes du Nouveau Testament nous disent que lorsque le Christ meurt, au même moment, le voile qui se trouvait dans le temple des Juifs se déchire de haut en bas. Et lorsque nous lisons le texte de Paul chez ou pour les Hébreux, nous comprenons qu'il existe une association étroite entre ce voile et la chair de Jésus-Christ, la nature de Jésus-Christ dont nous venons de parler. Nous sommes au cœur de l'explication du salut. Et pour faire court, puisqu'il le faut bien, disons-le ainsi. Qu'est-ce que le voile ? Que symbolisait dans le temple le voile ? Tout d'abord, comment le temple était-il constitué ? Il était constitué de façon relativement simple. C'était un grand rectangle, une pièce rectangulaire, qui était séparé en deux endroits distincts par un voile. Un voile sur lequel étaient représentés des chérubins, c'est-à-dire une certaine catégorie d'anges. Les prêtres, et seulement les prêtres, les simples prêtres, étaient invités à officier dans la première partie délimitée par ce voile qu'on appelait le lieu saint. Ainsi, lorsqu'on entrait par la porte d'entrée dans le temple, on atterrissait dans une première pièce qui était délimitée par trois murs, une porte et le voile en face, qu'on appelait le lieu saint. Dans ce lieu saint ne pouvaient entrer que les prêtres simples. Il y en avait beaucoup, souvent des lévites d'ailleurs. Le deuxième lieu qui était délimité par le voile dont nous parlons, était lui appelé le lieu très saint. Pourquoi très saint ? Parce qu'au centre de ce lieu, il y avait un ustensile particulier, l'arche de l'Alliance, un meuble en bois d'acacia recouvert d'or. Et le couvercle de cette arche, qu'on appelle aussi le propitiatoire, était lui constitué de deux chérubins protecteurs, deux autres chérubins protecteurs, coulés en une seule pièce d'or. Et qu'y avait-il au milieu de l'espace délimité par les chérubins protecteurs? La sainte Shekinah, la présence même de Dieu. Dans ce lieu-là, personne ne pouvait rentrer. Si un homme s'évertuait à entrer dans ce lieu, il mourait. Seul le souverain sacrificateur, le chef des prêtres, après s'être purifié, préparé pendant des jours, après avoir revêtu un costume sacerdotal de lin, pouvait entrer dans ce lieu, mais on comprenait qu'il courait un danger. Bref, j'en reviens au voile. Le voile est tout simplement l'élément qui sépare Dieu et sa sainteté, sépare Dieu et sa sainteté de l'humanité pécheresse, quand bien même s'agirait-il de prêtres? Quand Jésus meurt, ce voile symbole de la séparation entre l'homme et Dieu est rompu, déchiré, non pas de bas en haut, mais de haut en bas. Par Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ, le symbole de notre séparation de Dieu du fait de notre nature pécheresse ne pouvant supporter la sainteté divine, n'est plus. Et quand on lit la sainteté divine, n'est plus. Et quand on lit le texte de Paul aux Hébreux, on nous fait comprendre que ce voile, c'est en fait la chair de Jésus-Christ, la nature de Jésus-Christ qui est crucifiée. Comment comprendre ce mystère? C'est assez logique. Revenons au buisson. Nous venons de dire que lorsque l'envoyé de l'Éternel, Dieu, se manifeste à Moïse, il le fait dans cet arbre si particulier, fort du symbolisme de l'humanité. Une humanité particulière, pécheresse, nous avons dit cela, nous avons décrit cela. Jésus est un porteur saint. Jésus, du premier souffle de son existence, et quand je parle de souffle, je parle d'un souffle dans le ventre de sa maman Marie, jusqu'au dernier de ses souffles sur la croix, n'a jamais pratiqué, manifesté le moindre péché. Jésus a remporté une victoire extraordinaire, celle-là même que nous sommes bien incapables de remporter. Il avait, lui, la même condamnation, la même tare, le même poids, la même maladie que nous. Mais tout au long de sa vie, il a su, par la force de sa spiritualité, par la force de son lien à Dieu, par la densité de présence de l'Esprit Saint en lui, la contenir, l'empêcher de se développer. Et lorsque le Christ meurt, eh bien, les amis, c'est cette loi de péché et de mort, je le disais il y a un instant, nous disait Paul. C'est cette malédiction levée au plus profond de l'homme qui y est détruite. La mort de Jésus-Christ démontre que celle-ci, cette loi, ce potentiel mauvais, a pu chez lui être vaincu. Dès lors, le voile, symbole de la nature humaine du Christ, et avec lui de toutes ces natures humaines porteuses de ce mal, qui était l'élément nous séparant de Dieu, puisque c'est cette nature qui nous conduit encore aujourd'hui à pécher et à ne plus pouvoir la supporter, la sainteté divine, ce voile est détruit. Il nous faut comprendre cette théologie, cette christologie, si nous voulons enfin nous donner la chance de cheminer bien sur cette autoroute qui nous conduit aux cieux. Je crois que nous basculons du chemin rocailleux à une véritable autoroute lorsque nous comprenons quelle victoire le Christ sur la croix a remportée pour nous. Savez que le Christ, parce qu'il est l'un de nous pleinement, et nous avons vu jusqu'où, porteur de ce potentiel mauvais, permet à un processus d'identification de se mettre en place. Et là, nous pourrions prendre un exemple, arboricole aussi. Imaginez un arbre sec, un arbre qui ne donne du fruit. Vous savez qu'il est possible, par des techniques arboricoles, de pouvoir redonner vie à un tel arbre, de pouvoir lui permettre de donner, de produire du fruit. Il suffit de pratiquer un greffon. Qu'est-ce à dire ? Vous allez prendre la même nature d'arbre, mais saine, porteuse de fruits, et selon une technique particulière que nous n'indiquerons pas ici, vous greffez ce bon greffon sur l'arbre sec ou improductif, et si la greffe prend, à la saison prochaine, il produira du fruit. Miracle. Parce que Jésus est en tout point comme nous, à la seule différence que lui arrive à contenir par la force de sa spiritualité ce potentiel mauvais, chose que nous n'arrivons pas à réaliser, il est une sorte de bon greffon qui, dès lors que par la foi nous l'acceptons, autorise une greffe sur les arbres secs que nous sommes tous. Et alors, nous allons aussi normalement produire du fruit, pas de même qualité, non pas avec le même goût, pas aussi gros, pas aussi beau, mais l'essentiel c'est de produire. Il me semble qu'il nous faut comprendre la nature de Jésus-Christ si nous voulons enfin entrer sur ce chemin, sur cette autoroute qui nous mène dans les cieux. Remarquez d'ailleurs l'incidence psychologique de cette acceptation théologique. Il me semble que nous comprenons bien ce que le Christ a réalisé et quand nous l'acceptons, que déjà psychologiquement, déjà moralement, nous nous sentons libérés. Nous ne regardons plus à ce péché que nous avons commis, que nous commettons et commettrons encore. Nous regardons à Christ. Nous regardons à sa victoire à lui. Et le simple fait de nous débarrasser de tous ces boulets qui nous collent aux pieds nous aide du coup à entrer dans la pratique d'une vie sainte et sanctifiée. À entrer dans la pratique d'une vie sainte et sanctifiée. Voilà pour le buisson. Mais il y a d'autres signes, tout aussi intéressants. Je ne vais pas vous proposer une troisième prédication sur le sujet, il faudra plutôt faire des réunions d'après-midi. On va faire vite. Le signe de la gestuelle de la main lépreuse. Vous vous souvenez cet épisode un peu particulier ? Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. On peut imaginer que c'est cela. Et la main sort lépreuse. Et Dieu dit toujours à Moïse, remets ta main, et quand la main sort et retirée, elle est saine. Nous parlions de greffon tout à l'heure. N'y a-t-il pas là une allusion à l'efficacité de cette greffe ? De même, n'avons-nous pas dans ce signe une méthodologie qui, si nous l'appliquons, nous donnera cette efficacité, cette victoire que nous avons bien, par nos propres mérites, du mal à obtenir. Vous savez que la lèpre ne se contacte pas lorsque nous nous contactons nous. La lèpre se contracte lorsqu'on est au contact d'autres lépreux. Nous sommes ici dans un process de transmission différent, peu coutumier,